bien heureux rentre en enfer. Déchaîné, je suis la bête qui provoque hystérie. Une pensée aux ancêtres, à la nôtre, tant qu'en vie, je suis parti en exil. J'ai quitté ma patrie, la madre et le padre m'ont appris la survie. Donc je découpe ces bâtards, comme je découpe la rime. Les jaloux font que maigrir sont tous anorexiques. Je vais niquer le rap jeu, le black est ombrageux. Le black est ombrageux, je vais niquer le rap jeu. Fais gaffe à l'orage, la mort aura frappé. Quel destin outrageux, la morale des dalleux. Le monde part en fumée, l'amour aurait fané. Un gros mot l'a craché, un raclant m'a craché. J'ai sorti les armes à main, ils vont bouger, ces fachos vont payer. T'as mis tes genoux sur moi, tu veux tester, y'a pas de soucis. Shuriken, je suis dans le noir, je manipule du tout interdit. J'ai chakra illimité, le Sharingan de Sasuke. J'suis un black samouraï, j'suis invincible comme Yasuke.
Je se meurt en manque de chlorophylle, une bruit souffle sur la ville. Ouais, c'est l'heure de partir pour la quiche, j'ai le manteau de la nuit.
On dit vrai qu'on est vrai même, c'est le monde il est faux. J'ai sorti mon épée devant eux, je mets respect eux. Ils ont juste une épingle, paie les frais de leur semeuse. Démarre en deux-deux, découpe en deux-deux. Tête-tête en deux-deux, je suis très entêté. Ils sont en VTT, je suis l'audit-TT. Wow, être loup, l'agneau, c'est l'époque, c'est Goku. Dans la merde jusqu'au cou, on a tous ce sang chaud. C'est la guerre des pouvoirs, pour l'ami fou le crew. On ira dans le trou, mais une fois dans le gouffre, ils ressortent tes défauts. Car ils ont peur du noir, mais ma couleur de peau sent très bien qu'ils sont faux. Même pas besoin de voir, je sais bien qu'ils sont faux. Ils sont faux. Je sais bien qu'ils sont faux. Ils sont faux. Le black est ombrageux, je vais niquer le rap. Je fais gaffe à l'orage. La mort aura frappé. Quel destin outrageux. La morale des dalleux. Le monde part en fumée. L'amour aurait fané. Un gros mot l'a craché. Un raclant m'a craché. J'ai sorti les armes à main. Ils vont bouger. Ces fachos vont payer. T'as mis tes genoux sur moi. Tu veux tester. Y'a pas de soucis. Shuriken, je suis dans le noir, je manipule du tout interdit. J'ai chakra illimité, le Sharingan de Sasuke. Je suis un black samouraï, je suis invincible comme Yasuke. T'as mis tes genoux sur moi, tu veux tester, y'a pas de soucis. Shuriken, je suis dans le noir, je manipule du tout interdit. J'ai chakra illimité, le Sharingan de Sasuke. Je suis un black samouraï, je suis invincible comme Yasuke.
Bon dimanche midi à tous, bienvenue à des Kiwi des Nerds, votre émission préférée du dimanche midi. Avec moi en onde aujourd'hui, un autre Jérémy que vous connaissez, donc Jérémy Jardin.
Hey, salut, salut.
Et Nassim, qui sont mes fidèles acolytes, toujours fidèles au poste lorsqu'ils n'ont pas du tango en même temps. Et sans plus attendre, on pourrait commencer avec des anecdotes, ça fait quand même un certain temps qu'on vous a vu, messieurs. Donc, quoi de neuf depuis?
Ben moi, on m'a vu la semaine dernière, puis mon anecdote, c'est que la semaine dernière, j'ai fait l'animation. Ça serait pas mal ça, mon anecdote, là. J'aurais pas trop d'anecdotes pour cette semaine.
Comment est-ce que t'as trouvé ça de faire l'animation? C'était ta deuxième fois quand même, hein? Ouais. Il grandit si vite.
C'était la deuxième fois, c'était pas pire, franchement. Ça demande de l'énergie. Aujourd'hui, Jérémy m'a proposé de la refaire. J'ai fait, non, on va prendre une petite pause aujourd'hui. En tant qu'animateur, il y a beaucoup, beaucoup de jobs, je trouve. En tant que chroniqueur, on est beaucoup plus tranquille, on a moins de responsabilités, on chill, on fait juste...
C'est un job facile.
C'est jamais facile, c'est juste plus relaxant, on va dire. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort agréable avec le fait de pouvoir discuter avec des gens qui ont des choses intéressantes à raconter, d'avoir des sujets pas nécessairement intellectuels, mais qui sont passionnants, des jeux vidéo, des films, des séries, ce genre de choses-là. Puis c'est pour ça que je trouve important qu'on puisse partager ce genre de choses-là avec nos auditeurs, que vous soyez dans votre voiture, que vous nous écoutiez dans la balado ou ailleurs, parce qu'il n'y a rien de plus plaisant que de partager ses passions, je trouve. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les vidéos YouTube, très souvent, celles qui ont le plus de vues ne sont pas celles le film lui-même, mais souvent les making-of, c'est souvent les gens qui vont parler du film. On pense notamment à CinemaSins. CinemaSins, très souvent, les films dont ils parlent, le nombre de vues qu'il y a sur la vidéo YouTube est 2 à 3 fois plus grande que le box-office qui a été fait. Donc, c'est quand même parlant. D'ailleurs, il faudrait éventuellement que je fasse une chronique sur... Il y a quelque chose d'étrange au fait que les making-of fassent plus de vues. Mais bref, et toi de ton côté, Jérémy, est-ce que tu as une anecdote, que ce soit un jeu de rôle, un jeu vidéo, un jeu de société?
Ben un peu. Hier soir, quand il y a eu là, moi j'ai encore en ce moment, j'ai pas d'électricité chez moi. Là, fait que j'ai dû trouver une manière de m'occuper. Fait que j'ai pris un livre, puis j'ai lu. C'est une nouvelle de Lovecraft.
Oh.
Fait que c'est un peu geek, fait que c'est un peu une anecdote comme ça. Mm-hmm. C'est, en particulier, ça s'appelle Les Montagnes Hallucinées. Donc, c'est une de mes favorites, une de mes nouvelles favorites de Lovecraft. Il y en a qui ne sont pas familiers avec H.P. Lovecraft. C'est un auteur américain du siècle dernier qui faisait beaucoup d'horreur, de science-fiction, de paranormal. C'est une des grandes influences sur le monde du jeu vidéo puis de l'horreur des films, vraiment. Ben, Lovecraft.
Les Souls, Elden Ring.
Absolument.
Particulièrement Bloodborne.
Bloodborne, tout à fait. C'est un monde qui est calqué, vraiment calqué sur son, mm-hmm. sur son imaginaire à lui. Fait que c'est ce que j'ai fait hier. Fait que c'est un peu comme mon anecdote. C'est vraiment le fun. C'est le seul souci qu'il faut un peu lorsqu'on lit les nouvelles de Lovecraft, c'est toujours d'avoir un dictionnaire à portée de main parce que le langage qui est employé est quand même assez soutenu.
Ouais.
Puis c'est vraiment des mots érudits puis rares que tu rencontres souvent, mais c'est vraiment une joie de lire ces nouvelles.
Puis pendant que tu lisais, puisque tu n'avais pas d'électricité, est-ce que tu en as profité pour mettre des chandelles un petit peu partout autour de toi puis commencer à évoquer des créatures?
Non, j'ai pas fait ça par exemple. Non, j'avais une petite lampe de poche, fait que je ressemblais un peu à James dans Silent Hill 2. Là, j'avais une petite lampe de poche que tu es censé accrocher sur ta veste. Là. Fait que c'est ce que je tenais dans une main pendant que je tenais les livres d'une autre. Puis j'avais mis de la musique un peu glauque sur mes haut-parleurs. Là. Fait que c'est ce que je faisais hier soir.
Ah ouais, c'est drôle que tu parles de ça. Moi aussi, une grande partie de la population à Québec, ici, on a perdu l'électricité. Moi aussi, j'ai perdu l'électricité. Puis, justement, j'avais pas de lampe de poche, j'avais rien, plus d'électricité, plus de batterie dans mon téléphone, nulle part. C'est la fin du monde.
Pour la petite histoire, il est d'ailleurs en train de changer son téléphone ici en ce moment.
c'est ça, dans le fond, moi, j'ai vraiment allumé des bougies. Là, puis, c'est drôle, les seules bougies que je trouvais chez moi, c'était des bougies odorantes. Fait que là, elles avaient des odeurs différentes. Là, et c'est comme un mix de vanille puis de cèdre là, assez spécial. mais ça m'a fait penser justement qu'il faudrait que je m'achète un genre de chandelier puis avec des belles chandelles. Moi, je trouve ça très beau justement. Mm-hmm. Pour invoquer, ben, pas les mauvais esprits quand même, là, les bons esprits cette fois-ci.
Ben, justement, je vais rebondir un peu sur ce que Jérémy disait. Pour ceux qui ne le savaient pas, Lovecraft a vécu à Québec. Il a même écrit un livre sur la ville de Québec. Le côté rustique, le côté apaisant qu'on avait. Puis il y a une plaque devant l'endroit où il a vécu. Tu me connais?
Oui, absolument.
Si
je sais pas c'est où, mais je suis déjà passé dessus, malheureusement. Il y a genre 10 ans, puis je l'ai oublié, puis je m'en mords les doigts.
Ouais, c'est sur le trajet de la 800, c'est en Hauteville. On vous en reparlera sur la page Facebook, mais Lovecraft a passé ici. Il a adoré son passage. Et moi, je dis que c'est une victoire.
Tout à fait.
C'est une victoire culturelle pour nous.
Juste une petite parenthèse. C'est vraiment étonnant. On s'en rend vraiment pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes américains qui ont passé des séjours à Québec depuis genre 200 ans.
Mm-hmm.
Des peintres, des cinéastes, des photographes, vraiment beaucoup. On s'en doute pas.
Mm-hmm.
On n'y pense pas vraiment, mais il y a vraiment un grand antécédent d'hommes comme Lovecraft qui sont venus passer des plusieurs années ici.
Ben, sur une échelle différente, on pense aussi à la série Gobelins, qui avait été tourné, il me semble, c'était en Corée du Sud, mais que le château qu'ils utilisent, c'est le château Frontenac. Donc, le tournage s'est fait à Québec pendant un certain temps. Comme de quoi, on peut être très fiers de nos paysages touristiques. De mon côté, côté anecdote, écoutez, j'en ai plein. J'ai eu un burst de jeux vidéo. Oh, j'ai fait un anglicisme. J'ai eu une envie de jeux vidéo très, très, très soudaine que j'ai malgré tout su calmer, mais je suis passé au travers des jeux de société, par contre. Donc, Haunted House on the Hill. Cette fois-ci, le jeu n'a pas d'équivalent français, mais la version qui se passe dans le monde de Donjons & Dragons, en fait. Donc, c'est un jeu où on est d'abord collaboratif. On doit se promener dans les différentes pièces. On accumule des pouvoirs. Donc, on peut jouer le voleur, le barde, le paladin, etc. Donc, on a des petits pouvoirs comme ça. Puis, on est coopératif jusqu'au moment où il y a un événement qui se produit. Puis, dans cet événement-là, en fait, on a une centaine de scénarios différents qui peuvent se produire. Fait que si, par exemple, tu as récupéré tel objet à tel endroit, puis c'est ça qui a déclenché l'événement, bien, c'est l'événement numéro 36 qui va se déclencher. Puis, si les événements sont tous très, 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 très différents. Fait que ça peut être, on est encore pleinement collaboratif à, il y a un traître, mais on ne sait pas c'est qui, à... ce joueur-là est le méchant, on est tous contre lui. Donc, ça a une dimension intéressante parce que puisqu'on ne sait jamais quel sera l'événement qu'on va avoir, ben, on veut aider nos alliés parce que si nos alliés ne sont pas suffisamment forts, on ne parvient pas à compléter l'événement. Mais si un allié spécifique est trop fort ou si on rend trop fort un allié qui ne sera pas dans notre camp plus tard, ben, ça devient compliqué. Fait qu'il y a comme des petits mind games, des tricks à faire. Puis il y a même un événement que ça prétend être un autre événement. Fait que tu peux pas être certain que c'est effectivement cet événement-là qui est en train de se produire. Fait que je trouve ça... J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai joué notamment à des jeux de société avec ma famille hier et je tiens à en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma grand-mère Denise Delisle qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Donc...
Bonne fête!
Joyeux anniversaire, ouais.
Comme elle le disait, elle entre désormais dans l'hiver de sa vie, mais ce sera un bel hiver doux, plein de neige et encore compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants, je lui souhaite.
On lui souhaite aussi.
Donc, puisque Nassim est si poli, et non pas parce que c'était prévu à l'avance, tu peux commencer avec ta chronique si tu le souhaites.
Ah, ok. Parfait. Je vais y aller. je pensais pas le faire en premier. Mais en fait, moi, c'est assez simple. La chronique d'aujourd'hui. Non, ça va être mieux. Si je commence, Jérémy, ça va être mieux.
Ouais?
Ouais, je vais vous laisser
commencer. Ah, ok, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave.
Je vais être honnête parce que c'est un quiz, ma chronique aujourd'hui. J'ai envie de finir avec
c'est
moi qui vais devoir faire. Ok, c'est moi qui vais devoir
Peu importe. On quel des deux Jérémy là?
Jérémy qui va ouvrir le bal.
C'est beau, ça va être moi. Moi, ok. Ben, moi, comme d'habitude, je vais vous parler d'un jeu vidéo, ma grande passion. Cette fois-ci, d'un jeu vraiment indie, pas beaucoup de gens qui le connaissent. Il s'appelle Kenshi. C'est sorti en 2018, si je ne me trompe pas, mais c'était en développement pendant genre 12 ans. C'est un gars qui l'a fait le jeu, une ou deux personnes. C'est pour ça que ça a pris 12 ans.
Ok, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus logique parce qu'un joueur développement pendant 12 ans, c'est compliqué.
Ah ouais, non, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, ce petit jeu-là, Kenshi, si je ne me trompe pas, ça a été fait en Angleterre, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est, Kenshi? C'est vraiment un gros mélange de genres. C'est comme un sandbox, mais avec des éléments de RPG, de futuristique, post-apocalyptique. En gros, le monde de Kenshi, c'est justement ça. C'est un monde où l'humanité a atteint une espèce de maîtrise technologique, scientifique inimaginable. On colonisé différentes planètes et puis ils ont créé des armées de robots, comme on peut l'imaginer un peu aujourd'hui avec des automates qui ont des capacités de pouvoir coloniser toutes sortes de planètes. Et il y a un grand cataclysme qui se produit. Il y a une série de cataclysmes qui se produisent et toute la civilisation est perdue. La technologie est perdue, le monde est détruit. Et on se trouve dans cette un peu comme une analogie, un peu comme dans un monde post-apocalyptique après une guerre avec des zombies ou une guerre nucléaire ou quelque chose comme ça. Tout est perdu un peu, où les gens opèrent avec des technologies qu'ils peuvent retrouver, où maintenant juste un circuit électrique peut devenir une forme de monnaie ou quelque chose comme ça, parce qu'on n'est plus capable d'en produire. Fait que t'as toujours une quantité limitée. C'est vraiment un superbe jeu. C'est un tout petit jeu indie, mais vraiment pour les gens qui s'appelaient les sandbox. Il y a facilement des centaines d'heures de jeux là-dedans. Comme c'est un jeu indie, vous pouvez l'acheter sur plusieurs plateformes. Moi, je l'ai acheté sur GOG. Il est sur Steam aussi. Il ne coûte pas vraiment cher. Surtout à rabais, ça doit coûter genre 3$ quand c'est à rabais, ce jeu-là. Mais moi, je vous conseille toujours d'acheter sur GOG pour pouvoir le posséder en tant que tel plutôt que vraiment juste de le louer comme on le fait quand on achète un jeu sur Steam.
C'est vrai, hein? On ne pense pas à le mentionner, mais d'un point de vue légal, les jeux qu'on possède, en fait, on ne les possède pas. Non. Les jeux qu'on a sur Steam ne sont pas à nous, ils appartiennent à Steam. Ils ne le feront pas, mais d'un point de vue légal, si demain tous nos jeux disparaissent.
Tout à fait. Peut-être on sait pas. Peut-être que les serveurs. Bon, on peut imaginer que les gens. Que Valve a des backups, là, mais imagine si. Je sais pas, moi, ils font faillite ou ils se font pirater quelque chose ou. Peut-être pour une raison ou pour une autre, Valve décide que t'es pas une bonne personne pour une raison X ou Y, puis il essaie de juste te confisquer tous tes jeux, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas exactement d'être vulnérable à ce genre de situation. Fait que moi, j'achète tout le temps un jeu. Je pense, évidemment, l'alternative, c'est de pirater les jeux. Moi, j'encourage tout le temps les gens.
On ne pirate jamais les jeux. On ne parle pas non plus de les pirater.
Non, mais c'est ça. Mais écoutez, c'est l'alternative, c'est ça. C'est d'aller sur des plateformes. Comme GOG, où on peut acheter les jeux, puis on est possédé en tant que tel, on les télécharge, on n'a pas besoin d'une connexion Internet, on n'a pas besoin d'un compte, on n'a pas besoin de rien de ça, puis on peut jouer au jeu. Bref, tout ça pour dire, maintenant j'ai fait mon annonce pour GOG. Ce jeu-là, Kenshi, moi, personnellement, ce qui m'interpelle dans ce jeu-là, oui, c'est la grande liberté du mouvement. En gros, on commence le jeu, puis on est un gars qui n'a pas rapport. On est un personnage comme un autre dans l'univers. On n'a pas une destinée, on n'a pas un choix. Puis comme c'est un sandbox, on peut faire essentiellement ce qu'on veut. C'est une grande carte. Le monde de Kenshi, en gros, c'est un continent, d'où le titre du jeu tiré. Un grand continent. où il y a différentes régions, il y a différentes races, il y a quelques civilisations humaines qui sont encore subsistantes, mais aussi il y a beaucoup de ruines des civilisations, des grandes civilisations passées, des civilisations humaines. Aussi, il y a la présence de ce qu'on appelle des squelettes, des skeletons, qui sont des espèces d'automates humains, humanoïdes plutôt, ce sont des robots. Mais eux, ils datent de l'époque, il y a des millénaires où il y avait encore les empires. Il y a ce qu'on appelle des créatures qui s'appellent des Sheks, qui ressemblent un peu à des hommes un peu plus costauds, plus grands, plus musclés, avec des corps. Okay. Et qui sont très, très, très belliqueux. Donc, eux, ils sont dans leur coin de pays et dans leur coin de continent. Ils font la guerre. C'est un peu comme leur raison d'être. Ils sont vraiment violents. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une espèce de créature. Ça ressemble un peu à des abeilles dans leur opération, des fourmis, pour vous donner une image. Ça s'appelle des hivers. C'est une espèce d'insectoïde qui opère sous un système monarchique avec une reine qui pond les œufs. Puis tout ce qui n'est pas la reine est essentiellement un drone pour servir la communauté un peu. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce monde-là, dans le monde de Kenshi, c'est que ça vient beaucoup me rejoindre, moi, dans les recherches que j'ai faites, dans mes études que j'ai faites au niveau de l'histoire. C'est quand la fine couche de civilisation est perdue, toute la civilité, les protocoles, quand tout ça est perdu, l'être humain redevient ce qu'il a toujours été, tu vois. C'est-à-dire que c'est un monde où la norme, c'est l'esclavagisme, tu vois. Puis c'est pas comme aujourd'hui, tu vois, on a l'abondance, on a les philosophes, toute la progression de la civilisation.
Ben, on a tout à la portée de la main.
Tout
là,
à fait,
on
exactement.
On écrit trois mots sur Google et c'est réglé.
Ben, quand t'as tout perdu, tu vois, quand t'as pas la capacité d'avoir des automobiles, puis des grues, puis l'électricité, tout d'un coup, le labeur physique devient quelque chose d'extrêmement important. Fait que c'est un monde où il y a beaucoup d'esclavagisme, il y a beaucoup de violence, gratuite, où il y a plus de démocratie, c'est tout des espèces de criminels. Il y a très peu de... C'est pas pour dire qu'il y a aucun groupe qui ont associé à un bon comté moral. Il y en a, mais ils sont mineurs. C'est toutes des factions mineures qui sont d'une manière ou d'une autre oppressées ou qui sont dans l'ombre des grands empires, des grandes factions qui existent, qui elles font la guerre. Tu as des fanatiques religieux là-dedans. Tu as des espèces de kleptocrates oligarchiques qui opèrent sous un système d'esclavagisme. Donc, t'es dans un espèce de monde vraiment un peu... abandonné à lui-même, puis tu débarques là-dedans, tout dépendamment du scénario dans lequel... Il y a différents scénarios de départ, mais ils n'ont pas vraiment un grand impact sur la progression du show. Ça fait juste transformer un peu l'endroit où est-ce qu'on commence, puis l'équipement qu'on a avec soi. Puis moi, j'ai commencé mon playthrough avec un bonhomme qui avait perdu un bras, qui était destitué, qui n'avait rien, dans le désert en train de crever de faim.
T'es parti en mode difficile, toi.
Ouais, c'est ça, j'ai pris. Ben, c'est ça, c'est l'un des plus durs, mais il ne faut pas toujours s'y fier. Si vous aimez les astuces chutes, puis vous regardez dans le coin en haut à droite qui vous décrit la difficulté des scénarios de début, il ne faut pas tout le temps s'y fier parce qu'il y en a qui sont faciles en guillemets, qui sont plus durs que d'autres, puis il y en a qui sont plus durs, qui sont censés être durs, mais qui ne sont pas tant que ça finalement, si tu sais comment. Surtout abuser le jeu, c'est une des choses, par exemple. On peut faire du vol là-dedans, on peut être un chasseur de primes, on peut bâtir sa base, on peut s'allier à toutes sortes de factions. Fait que la place pour le jeu de rôle est vraiment, vraiment large. Cool. Vraiment, là. Puis la musique est superbe aussi. Hein.
Ben, justement, je le mentionne, mais c'est drôle parce que chaque fois que tu nous parles d'un jeu vidéo, je vérifie s'il est en rabais sur Steam. Et chaque fois, systématiquement, il est en rabais. En ce moment, s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter Kenshi, 55% de rabais sur Steam. L'offre prend fin dans 24 heures, 42 minutes, 45 cool. secondes.
Moi, je vérifie jamais ça. Moi, je veux juste choisir un jeu au hasard, puis apparemment, il est en rabais. Là.
Ouais. Puis justement, tu parlais du fait que c'était un sandbox. Est-ce que c'est un sandbox jeu de gestion ou c'est un sandbox?
Ça peut l'être. Okay, ça peut l'être. Mais en gros, c'est un jeu où tu peux mettre sur pause. Mais
mettons, est-ce que ça serait similaire à un Crusader Kings?
Non, c'est pas comme ça. C'est plus... c'est en troisième personne. T'es jamais en première personne. Mais tu crées ton groupe. T'as pas des cases comme dans un jeu classique comme un Baldur's Gate ou quelque chose comme ça. C'est pas exactement comme ça. Mais t'as une carte. Fait que tu peux jouer avec l'angle. Mais t'es toujours au-dessus de tes personnages.
Okay.
Tu cliques sur la carte. Tu cliques sur l'écran, on va dire, pour te déplacer. C'est comme ça que tu fais. Et la manière dont le jeu... C'est ça, c'est comme une multitude de genres en même temps. C'est un sandbox, fait que c'est une très, très grande carte où tu peux faire essentiellement ce que tu veux, où l'histoire, la narration, elle n'est pas linéaire. Tu sais, tu trouves l'histoire dans des logs quelque part, dans des journaux que tu trouves, ou que tu écoutes le dialogue des gens. Il y a beaucoup une touche de mélancolie, beaucoup d'humour. C'est un jeu qui a aussi une forte touche ou une esthétique asiatique ou japonais. Donc, il y a des katanas, il y a toutes sortes de... Pas juste des katanas, mais toutes sortes d'armes... qu'on pourrait associer au Japon médiéval, mm-hmm. Des ninjas un peu partout. Donc, il y a cette esthétique-là qui est quand même intéressante, avec un beau mélange avec l'aspect futuristique, puis des automates, et puis le monde post-apocalyptique.
C'est drôle parce que de la manière dont tu me le décris, j'ai l'impression d'entendre parler de Fallout en ce moment.
Ça y ressemble un peu.
Quelqu'un commencerait à nous écouter là maintenant, il se dirait, je suis en train d'entendre parler de Fallout.
Ça ressemble beaucoup à Fallout. Puis comme dans Fallout aussi, un peu plus, peut-être même mon Fallout favori, c'était New Vegas.
Très bon choix.
C'est mon favori. Puis l'un des trucs dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de factions qui sont parfaites. T'as pas genre la faction des bons gars. C'est tout le temps ambivalent, tu vois. Tu peux voir qu'il y a une qualité d'une telle faction, mais tu peux voir qu'il y a un danger ou il y a des précipices. Tu peux voir la logique. Si tu fais juste poursuivre la logique de leurs idéaux, ou peut voir les problèmes où ça peut mener, c'est un peu comme ça que ça opère dans Kenshi, où la majorité des factions sont souvent problématiques. Il y en a qui sont bonnes. Tu as une faction, une personne qui est particulièrement touchante, des anti-esclavagistes. Donc, une faction qui s'oppose à l'esclavagisme dans Kenshi, qui est l'esclavagisme, comme j'ai expliqué, qui est une institution vraiment universelle dans le monde de Kenshi. Et puis, à leur tête, il y a un squelette.
Okay.
Donc, lui, c'est un...
c'est les robots dans cette
scène. C'est les robots, oui, c'est ça. Puis eux, ils sont toujours tristes. Un des détails, ils sont tout le temps tristes.
Ah oui?
Puis c'est un peu un mystère du jeu, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont tristes. Mais en gros, c'est parce que... c'est pas pour spoiler trop, mais ils ont joué un rôle dans le cataclysme qui a affligé l'humanité, en gros. Fait qu'ils sont tristes. Donc, ils sont là parmi les humains. Puis les humains ne se souviennent pas de ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Tout a été perdu, l'histoire a été perdue. Mais eux, ils ont toujours été témoins depuis...
Je trouve que c'est une idée qui est super intéressante parce que pour moi, ça vient me parler au même titre que l'image du clown triste, où ce qu'on se dit, c'est antithétique, c'est deux choses qui devraient être opposées. Pourquoi est-ce qu'un robot qui est censé avoir aucune émotion serait tout le temps triste?
Tout à fait.
Là où, même chose, hein, pourquoi est-ce qu'un clown serait triste alors qu'il est censé être l'image
exactement.
De la joie?
Exactement. Puis là, un truc qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Ce jeu, il fait beaucoup d'humour, mais de temps à autre, tu arrives dans une zone en particulier qui s'appelle Obéissance. C'est son titre. Et puis quand tu rentres, tu vois des espèces de géants de fer, des robots géants, tu vois, qui sont figés dans la terre. Donc, sur la surface sur laquelle on marche, est à vrai dire, c'est du métal qui s'est figé. Et tu as toutes des poses dramatiques de géants, de robots géants qui essaient d'émerger du métal qui est en fusion au moment où ils ont été scellés. Et quand un robot dans ton équipe, il commente et dit c'est le prix de l'obéissance. Ils ont marché dans le trou de leur libre volonté, le prix de l'obéissance. Tu vois, c'est de là que vient le titre. Tu vois, il y a toutes sortes de moments comme ça où tu explores le monde, puis tout dépendamment des personnages que tu as dans ton équipe, ils vont faire des commentaires sur... Par exemple, des fois, tu es dans un marais, puis l'un des robots, ça fait les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils vont commenter. Avant, c'était, il y avait des grands bateaux ici. Les humains aimaient leurs grands bateaux. Puis ton personnage commente, ben voilà, de quoi est-ce que tu parles. Ben, c'est, plus il t'explique, ben, va dire le marais ici, le marécage, ça va dire c'était une mer avant. Fait qu'il y a toujours une notion toujours un peu mélancolique de ce qui a été perdu, tu vois. Puis c'est toujours confronté au fait que tout ce qui est mal aujourd'hui, tout ce qu'on considérait comme étant vraiment mal aujourd'hui, pour eux, c'est absolument banal, tu vois. Mm-hmm. C'est tout le temps un élément de moi que je trouve vraiment intéressant, c'est toujours cet élément de réflexion-là, de wow, qu'est-ce qui se passe quand la civilisation est perdue, tu sais, quand on parle.
Qu'est-ce qui se passe quand la société s'écroule?
Et quand la société s'écroule, tu vois. Puis mais c'est pas juste le progrès technique, le matériel qui est perdu, mais aussi le progrès moral. Fait que tu te trouves dans un monde qui s'est effondré au niveau technologique, mais aussi au niveau moral.
Un truc que je trouve passionnant, particulièrement que ce soit dans les jeux, les séries, les films, la littérature récente, on a tendance à être très, très, très peu optimiste quant au futur. Puis même à l'époque, on pense notamment à 1984, qui définitivement n'était pas optimiste par rapport au futur. Il y a quelque chose d'intéressant avec la condition humaine qu'on explore beaucoup dans le jeu vidéo sur le... Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression que le futur ne peut pas être bon? Genre, on idéalise beaucoup le passé. Hein? On en parlait notamment dans la chronique de sur Fallout New Vegas qu'on avait fait avec lui. On idéalise beaucoup le passé. Puis on parle beaucoup du futur comme étant quelque chose dont on a peur.
C'est un périple, c'est dangereux.
C'est l'inconnu, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Fait que je trouve ça intéressant. Je serais curieux de voir s'il y a des jeux qui parlent d'un futur qui est heureux. Puis en même temps, ça serait un peu, encore une fois, antithétique dans le sens où... si on est dans un futur heureux, c'est quoi le gameplay, c'est quoi le jeu?
Tout à fait.
Mais...
c'est aussi, faut, comme tu l'as exactement mentionné, c'est comme un peu dans un film ou dans un livre, il faut tout le temps que tu aies une situation problématique, tu vois, sinon tu peux pas avoir d'histoire. Il faut que tu aies une situation problématique pour avoir une histoire. Fait qu'il faut tout le temps que tu aies un élément problématique dans un jeu vidéo pour pouvoir avoir quelque chose que le joueur puisse faire. Mais l'un des trucs, moi, que j'aime toujours garder en tête, c'est que, tu sais, comme Orwell, le but d'Orwell quand il a écrit 1984, c'est pas parce qu'il pensait que c'était le futur qu'il fallait créer. Tu vois, ultimement, derrière le motif d'un article,
c'est
pour nous prévenir. Tu vois, c'est foncièrement optimiste, tu vois. Mm-hmm. C'est pour nous mettre en garde contre le futur. C'est vrai, puis aujourd'hui, tu sais, que ce soit au niveau technologique, ou au niveau politique, ou au niveau environnemental, ou au niveau alimentaire, ou au niveau démographique, et tout, il y a souvent des thèmes récurrents dans les dystopies. C'est wow. Où est-ce qu'on pourrait se diriger? Il faut faire attention. Faites attention. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut. Oui, on a beaucoup de puissance avec les technologies, mais tu sais, il ne faudrait pas créer un monde où les automates décident de se rebeller contre nous. Tu vois, ce genre d'exemples-là.
Puis aussi, un truc, puis je vais faire un petit aparté, parce que ça m'a fait penser à un film que j'ai écouté il y a fort longtemps, qui s'appelle Battle in Heaven, où ce que le film, c'est une histoire qui se passe après l'histoire, dans le fond. Autrement dit, c'est une famille, ils sont extrêmement malheureux, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, puis on est dans un quotidien qui est absolument merdique. C'est-à-dire que le gars trompe sa copine, ils sont pas heureux, la vie ça va pas bien, il y a rien qui va. Puis le film est extrêmement poétique, où ce que en fait, on est après le film. Littéralement, le but de ce film-là, c'est de nous montrer qu'est-ce qui se passe après le film. En fait, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'une histoire où, là, je vais divulgacher, mais ils ont tué un bébé, en fait. Fait qu'ils ont essayé de récupérer un bébé parce qu'ils voulaient l'adopter, sauf que par un concours de circonstances, le bébé est mort. Puis on voit, tu sais, ça a l'air d'une bonne intrigue, genre une famille qui veut récupérer un enfant, qui n'est pas capable, qui tue accidentellement l'enfant. Comme, il y a une histoire à raconter, mais le film a pris le parti pris de nous parler du après l'histoire. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que avec Kenshi, c'est un peu aussi ce que tu es en train de nous raconter ou ce qu'on est après l'histoire. Ouais, ben c'est tous les grands événements, tous les moments avec des movie shots, exactement. C'est hollywoodien, ben, sont déjà produits. On voit juste... OK, qu'est-ce qui est arrivé, puis on découvre.
C'est ça, justement. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on se trouve un peu à la fin de la civilisation. D'ailleurs, ça c'est en passant, parce que c'est un grand succès, le jeu. Mm-hmm. Quand même, pour un jeu indie, c'est un grand succès pour genre une équipe d'une personne ou deux. Kenshi 2 va se dérouler 1000 ans auparavant, c'est-à-dire pendant la période qui a vu la chute du Second Empire. En gros, il y a eu deux empires. Il y a eu l'Empire original, avec la grande technologie, une catastrophe, et puis subséquemment, il y a eu un Second Empire, et puis là, il y a eu une seconde catastrophe qui s'est frappée au Second Empire, et là, on est 1000 ans après la chute du Second Empire. Puis là, c'est ça, dans le jeu de Kenshi, il y a encore un personnage, entre autres. Le Second Empire était dirigé par un squelette, c'est ça. Au début, c'était les hommes. Lors du Premier Empire, bon, il y a eu la catastrophe. Et puis là, c'était un squelette qui avait pris le squelette. Il ne faut pas oublier, c'est des automates. Alors, il s'appelle squelette, mais c'est... Parce qu'il ressemble à des squelettes un peu. Il ressemble comme à des êtres de chair, sauf que juste les os un peu. Mais c'est, bon, c'est du métal. Fait que c'est pour ça qu'on les appelle squelettes. Puis c'est lui qui était à la tête du Second Empire. Et puis, il était encore là dans un endroit qui s'appelle les H. Lands. Donc, c'est très triste. C'est un endroit tout blanc, couvert de
terre cendrée.
Puis, t'as toujours cette notion-là de ce qui est perdu, de la tragédie, de l'amour du passé, l'amour de ce qui est perdu. C'est ça, justement, je voulais, juste pour finir rapidement, c'est ce squelette-là qui s'occupe avec la faction anti-esclavagiste. Il s'appelle Tin Fist, tu vois. Et il y a un moment, quand tu te promènes dans les différents bars du monde, il commente, il y a des clients qui commentent sur les actions de Tin Fist et il se bat pour une cause perdue pour les hommes. Ou contre les esclaves, tu vois, c'est un robot, c'est pas lui qui est, mais tu vois, c'est comme un des derniers legs d'un monde meilleur où il y avait des meilleurs idéaux, puis c'est pas un homme, tu vois, c'est un robot, c'est l'une des créations de l'homme qui essaie de le protéger lui-même de sa propre folie. Fait que non, c'est vraiment un beau jeu, je le conseille à vraiment tout le monde.
Parfait. Ben, super. Je vais en profiter d'ailleurs pour mentionner que pour un jeu indie de deux personnes, avoir un score de 75 sur Metacritic, c'est quand même pas volé. Et on va sur ce aller à la pause et on se reverra après la pause pour discuter un peu plus en détail de ce jeu et de d'autres.
Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CKUT 90.3, le concert rock metal noise du groupe Pangea des Futura. C'est un rendez-vous le dimanche 22 mai, 15h, à Victo. Pour plus d'informations, visitez le www.fimav.qc.ca.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chis 94.3.
Donc, c'était la musique très sobre, très en douceur de Kenshi, intitulée Breath of the World, donc le soupir du monde, traduction libre. Et donc, on peut passer à notre prochaine chronique si tu n'avais pas d'informations complémentaires.
Absolument, j'ai hâte de faire le quiz, moi déjà.
Jérémy. Est-ce qu'on s'en allait vers le quiz? Je ne crois pas. Hein, c'est
non,
vers
on
la
va
fin.
Finir avec le quiz, les amis. C'est pour tout le monde aussi là, qui nous écoute, restez jusqu'à la fin parce que vous pourriez participer aux autres aussi et courir la chance de rien gagner.
C'était comme une surprise. vous pouvez gagner la satisfaction d'avoir eu aussi bon que moi.
Exactement.
Non, je m'avance. Mais moi, en fait, je suis là pour vous parler de Stanley Parable. Mais là, vous allez dire, Jérémy, pourquoi est-ce que tu nous parles de Stanley Parable? Il me semble que c'est sorti il y a très longtemps. Pas assez pour dire que c'est un jeu rétro qu'on veut ramener. Oui, mais c'est parce que, en fait, récemment, ils ont sorti de Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Donc, qu'est-ce que c'est que l'édition Ultra Deluxe? C'est un genre de remake, en fait. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas de Stanley Parable, en fait, Stanley Parable, c'est un jeu vidéo qui a été développé sur le Unity Engine avec par le diffuseur, le publicateur Crows, qui eux, en fait, c'est très méta de Stanley Parable. C'est-à-dire que dedans, tu joues un personnage qui s'appelle Stanley, qui a une job de bureau qui est plate. Sa vie, c'est du 9 à 5. Puis, il y a différents chemins que tu vas pouvoir emprunter parce qu'il y a un narrateur qui t'explique qu'est-ce que tu es censé faire. Fait que là, tu peux écouter le narrateur ou tu peux ne pas l'écouter, commencer à désobéir, faire d'autres choses et le narrateur va réagir en fonction de ce que tu vas dire. Le jeu est extrêmement méta et fait une boucle sur lui-même. Puis, il y a d'ailleurs un succès dans The Stanley Parable, la première version, qui est réouvrir le jeu après 5 ans. Donc, pour avoir le platine sur Stanley Parable, il faut que tu finisses Stanley Parable, que tu arrêtes de jouer et que 5 ans plus tard, tu reviennes. Mais là, c'est là qu'ils deviennent méta. The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition, ça fait plus de 5 ans que Stanley Parable est sorti. Mais là, pour avoir la platine, pour avoir ce succès-là, maintenant, c'est 10 ans qu'il faut avoir. Ce qui fait que tu peux pas gagner avec eux parce que peut-être que dans 10 ans, ils vont nous ressortir une autre version juste pour pas qu'on puisse avoir. Fait que là, ça va être 15 ans, 20 ans. Fait que c'est un peu ça le concept du jeu qui est très méta. Puis justement, lorsque tu joues à la version Ultra Deluxe, tu dois commencer par refaire le contenu que tu as déjà fait. C'est-à-dire que tu refais les fins que tu as déjà vues, tu refais les petits morceaux d'histoire que tu avais déjà. Notamment, le narrateur va se mettre à réminiscer sur des événements que tu as vécu dans le jeu, un peu pour parodier certains événements, certains jeux qui vont, par exemple, te ramener sur des flashbacks alors que ça fait 30 secondes que ça s'est passé. Tu sais, on a tous vu ces séries où c'est genre « Mon frère est vivant !» Et là, on a un flashback de 30 secondes avant de son frère qui est vivant. Alors que, ben, on n'a pas besoin de flashback, on l'a vu il y a 30 secondes. Ben, Stanley Parable, il va un peu rire de ça, ou il va faire « Tu sais, Stanley, j'ai beaucoup apprécié les moments que nous avons vécu ensemble. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as ouvert le jeu? Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as ouvert la porte? » Mais tu sais, il va vraiment sortir des affaires qui sont niaiseuses, tu sais, qui sont très anecdotiques. Puis il va beaucoup rire de lui-même. Puis la version Ultra Deluxe, lorsque tu commences à rentrer dedans, ben, il va te parler un peu de son processus de développement, où ce qui était comme, OK, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une suite à The Stanley Parable? The Stanley Parable, puis là, justement, il va se mettre à rire du fait que le passé, il est toujours idéalisé, le futur, c'est jamais bon. Fait que là, il va mentionner une critique qui était mauvaise, qui est une vraie critique qui était sur Steam de quelqu'un qui n'avait pas aimé la version Ultra Deluxe, qui dit « Ah, c'est pas aussi bien que Stanley Parable, premier du nom, ah, les blagues sont pas aussi hot. » Puis il fait comme si ça le détruisait, puis là, il se met à spirale, il se met à dire « Oh non, le jeu est pas bon, qu'est-ce qu'on doit faire? » Ah, je sais, on va appeler ça Stanley Parable 2. » Puis là, il fait juste mettre un 2 sur ton écran titre. Fait que la prochaine fois que tu vas ouvrir de Stanley Parable, t'as un 2. Fait que c'est ça le concept, où ce que l'objectif, c'est d'être le plus méta possible. Et l'humour dedans est quand même très marrant. Moi, j'ai joué au premier jeu, mais pour la version Ultra Deluxe, vu que je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai regardé un peu des streamers, des let's players faire ça. Fait que puis ça rajoute une dimension supplémentaire où ce que t'as des commentaires sur les commentaires du narrateur. Fait qu'il y a beaucoup de fun à se faire avec ça. C'est pas sandbox dans le sens où c'est très dirigé sur ce que tu vas faire. T'es limité aussi dans tes actions. Mais il y a quelque chose qui est rajouté, par exemple, les collectibles. Vous savez, dans beaucoup de jeux, lorsqu'ils veulent allonger la durée de vie réelle, ils vont se mettre à rajouter des collectibles qui ont ni queue ni tête. On pense, par exemple, aux plumes du petit frère Ezio dans la série des Assassin's Creed. Mais en fait, les jeux Ubisoft, en général...
Du fromage. surtout les jeux open world, là, c'est parmi les pires criminels, c'est pour faire des collectibles de merde qui te mettent un peu partout dans le monde.
C'est ça, où ce que tu dois récupérer 150 billes, puis ils sont placés un peu partout, sauf qu'ils sont placés dans des endroits où ce que c'est pas le fun. Où, par exemple, je vais penser à Skyrim, où ce que tu as une quête, que c'est de récupérer des collectibles, la Nine Route Rouge. Mais la Nine Route Rouge est placée dans des endroits qui sont stratégiques, où tu n'as pas le choix de traverser des petits donjons, des petits trucs, puis ça te force à découvrir ce monde-là, cet endroit-là que tu ne peux pas revisiter si tu termines la quête principale. Parce que pour te rendre là, tu dois te ramasser un petit peu avant d'aller affronter Alduin pour la dernière fois. Fait que Stanley Parable, ce qu'il fait, c'est qu'il dit il y a 5 figurines, puis quand tu récupères les 5 figurines, ben, il se passe rien. Un peu comme Nassim tout à l'heure. Vous pouvez participer et courir la chance de gagner rien du tout. Fait que là, ben, tu vas collecter quand même les 5 figurines de cette année parce que tu te dis, ben non, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose. Puis quand tu collectes la 5e, effectivement, il se passe rien. Mm-hmm. Sauf que là, tu vas réouvrir le jeu, puis là, tu vas revoir une autre figurine, puis là, tu vas passer à 6 sur 5. Puis là, ça va te débloquer quelque chose d'autre. Puis là, c'est le moment où justement le narrateur va se mettre à réminiscer. Puis là, tu vas revoir les moments où tu as récupéré les figurines. Sauf que si tu marches sur ce moment-là, tu vas récupérer la figurine que tu as déjà pris. Fait que là, ça va être à 7 sur 5, 8 sur 5, 9 sur 5, 10 sur 5. Fait que j'aime beaucoup l'esprit de ce jeu-là. Je trouve que l'aspect méta est rafraîchissant. Puis c'est difficile de briser le quatrième mur puis que ça soit intéressant et intelligent pour de vrai. C'est très facile de dire on va briser le quatrième mur, puis là, tout le monde va faire « Oh, wow, c'est incroyable, le quatrième... » Non, c'est...
Un peu comme Metal Gear, un peu, genre, ça, c'est une série qui célèbre pour faire ce genre de choses-là.
Effectivement, notamment avec Raiden, parce que les développeurs Absolument, avaient conscience ouais. du fait que les gens n'avaient pas particulièrement apprécié de jouer avec lui, fait que dans Metal Gear Rising, Revengeance, il rit beaucoup de cet aspect-là, justement. Sauf que c'est quoi les désavantages, les défauts qui viennent avec Stanley Parable? Parce que c'est important quand même de reconnaître que tout jeu, toute œuvre a des défauts. C'est simplement que les qualités viennent sublimer tout ça. Le jeu est très court. Ou ce que, une fois que tu as terminé l'expérience, il n'y a pas vraiment de rejouabilité. Il va se reproduire globalement les mêmes choses. Parce que oui, il va tout le temps y avoir des petits éléments. Par exemple, chaque fois que tu vas ouvrir le jeu, le narrateur va te poser des questions. Fait que là, il va dire par exemple... Ah, utilise ce slider, puis dis-moi à quel point est-ce que tu apprécies ton expérience de jeu. Fait que là, tu vas le faire. Puis la prochaine fois que tu vas ouvrir le jeu, il va te dire, J'ai vu que t'aimais jouer avec des sliders. Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi à quel point tu aimes ce slider. Fait que là, il va te redonner un slider que tu peux glisser de 1 à 10 pour dire ta satisfaction sur le fait qu'il y ait un slider. Mais au bout d'un certain temps, ça s'épuise. Comme le nombre d'idées qu'il y a est très limité. Fait que je dirais, c'est quoi, 20-25 heures de jeu, grand maximum, si tu veux tout explorer. Ce qui fait que c'est très limité.
C'est quand même beaucoup, 20 heures. Moi, je m'attendais à genre 7-8 heures.
Un peu moins. Là, je parle vraiment de si tu...
Tu pousses. Là.
Ouais, tu pousses. Tu vas chercher tous les petits éléments, tous les trucs. Puis surtout, on parle de la version ultra deluxe, où ce que tu dois un peu refaire des éléments que tu as déjà fait dans le premier jeu. Puis si tu vas aller chercher tous les succès. Parce que si ce que tu veux, c'est juste avoir l'expérience globale, c'est plié en 6 heures. Un peu à la même manière qu'Elden Ring, il y a une durée de vie de 200 heures, mais que tu peux finir la quête principale en 4 heures.
Ah ouais.
Il y a des gens sur YouTube qui c'est des speedrunners, mais comme ils font pas de glitch, ils font rien, ils font juste directement partir vers le boss de fin, puis c'est plié en 4 heures, aussi simple que ça. Ben, il y a notamment PewDiePie qui a fait une run zéro mort, mais cette fois-ci pour de vrai, pas de manière ironique. il a terminé le jeu quand même assez rapidement, okay, là, parce que c'est pas particulièrement long, c'est pas particulièrement difficile. Les seuls boss que t'es vraiment obligé d'éliminer, c'est Renala, c'est Radahn, ensuite t'as Godfrey, puis tu peux...
C'est quand même long, 4 heures, parce que tu sais, les speedrunners, quand ils font tous les jeux des autres séries, peut-être que ça prend une heure et demie, deux heures et demie, peut-être au plus long.
Si
tu veux les faire rapidement, puis t'es vraiment bon, tu peux clencher ces jeux-là quand même.
C'est certain que si t'es un speedrunner aguerri, tu peux finir le jeu extrêmement rapidement, là, particulièrement si tu utilises des glitches, si tu te permets d'utiliser des armes qui sont cassées. Il y a des techniques, il y a des gens qui peuvent finir le jeu en 30 minutes. Mais... T'sais, vous et moi, là, si on voudrait finir le jeu 4 heures, ça serait raisonnable de dire qu'on peut plier ça. De la même manière que Standard Powerball Ultra Deluxe Edition, ça se plie en 6, 7, 8 heures. Tu peux aller chercher plus parce qu'il y a tout le temps une expérience supplémentaire, aller chercher tous les petits détails, explorer chaque zone, essayer d'aller chercher tous les dialogues du narrateur. Mais parfois, les dialogues du narrateur, c'est des petites variations. Par exemple, il y a une fin que c'est la fin avec le saut, qu'elle s'appelle. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu te promènes, tu récupères un seau, tu le prends. Puis là, la prochaine fois que tu vas faire un playthrough, t'as un seau avec toi, fait que le narrateur va adapter ce qu'il dit pour inclure le seau. Fait qu'au lieu de dire « Stanley sorti de son bureau », il dit « Stanley et son seau d'eau sortèrent du bureau ». Fait que tu sais, c'est un petit truc qui est plaisant parce que tu dis « Oh my God, il a réembauché le narrateur pour refaire les dialogues juste pour inclure le seau ». Fait que c'est le fun, c'est méta. Mais à quel point est-ce que ça rallonge réellement la durée de vie du jeu? Moi, personnellement, j'ai pas envie de refaire le jeu avec toutes les fins, avec le seau d'eau, juste pour voir chaque petite nuance vis-à-vis
juste
de ça.
Juste pour entendre le dialogue un peu différent.
Le jeu a une bonne durée de vie, mais c'est si tu vas aller chercher vraiment, si tu vas aller gratter chaque petite chose.
Ouais.
Fait que manque de rejouabilité, mais comme j'arrête pas de le dire, qualité par-dessus la quantité. Moi, je préfère largement un Stanley Parable qui se termine rapidement, mais que tu as une conclusion satisfaisante. Tu te dis, OK, wow, c'était un bon jeu, puis qui va rester dans les mémoires. Hein, parce que je veux dire, le jeu est sorti il y a très, très, très longtemps, puis quand la version Ultra Deluxe est ressortie, on s'est mis à le racheter. Hein, les lead players se sont remis à y jouer. Fait que ça a laissé quand même une belle expérience dans la mémoire des gens.
Ah, c'est pas pire, c'est très bon. Moi, je sais pas si je vais l'acheter, là, mais...
Non, ça coûte pas trop cher, ça.
C'est pas particulièrement
cher. Est-ce que c'est sur Steam, ça, ou c'est un jeu de console?
J'ignore s'il est sur console. Je sais que sur Steam, il est à 25$, okay. 25-26$. Il n'est pas en rabais. En fait, si je regarde, c'est 29,99$ que ça dit, pas en rabais. Fait que le jeu est pas particulièrement cher. Le truc, par contre, c'est que là, encore une fois, c'est une réédition d'un jeu qui est sorti il y a de cela très longtemps. Fait que les graphiques, c'est le Unity Engine, mais pas le Unity 5 qui est sur le point de sortir, ouais. Où on a les visuels qu'on peut confondre avec la vraie vie. Là, je parle de Unity. Vous et moi, on pourrait faire un jeu dessus, puis ça serait tout à fait legit. Là. Ce qui est fort avec Stanley Parable, c'est pas la qualité des graphiques, c'est pas la qualité du gameplay, c'est la qualité de l'écriture. Et rien que pour ça, moi, je pense que ça vaut la peine de l'acheter parce qu'il faut encourager ce genre de choses-là. Mais si vous êtes plus serré dans votre argent, si vous voulez acheter d'autres jeux, regardez un Let's Play, vous allez avoir la même expérience. Puis même, je suis dans l'impression que c'est meilleur lorsque vous écoutez avec les commentaires de quelqu'un d'autre parce que c'est le genre de jeu qui est tellement méta que... à un moment donné, il va mentionner le fait que probablement que t'es en train de regarder quelqu'un qui joue au jeu.
Okay.
Ça rajoute à l'expérience.
Je pense que tu as fait une bonne publicité, là, puisque ouais, ça peut être très intéressant en let's play, là, surtout, comme tu dis, s'il y a un caractère comique, mm-hmm. c'est genre plus le fun de rire à deux que tout seul dans sa chambre.
Ben, exact. Puis...
Parce que tu as l'air un peu fou. Là. Pourquoi tu ris?
Mais il n'y a personne dans ta chambre, donc tu n'as pas véritablement l'air fou, du moins.
C'est vrai.
Mais le truc qui est le fun avec ça, c'est que justement, vu que c'est un aspect comique, vu que c'est un aspect, tu sais, c'est pas un sandbox, mais c'est expérimental, là, je veux dire, s'il faut catégoriser le jeu, c'est de l'expérimental, bah, c'est toujours plus agréable de partager cette expérience-là que de simplement la vivre et de faire bon, mais ça, c'est arrivé, puis de passer à autre chose.
Non, t'as tout à fait raison.
C'est une expérience qu'il faut laisser mûrir.
Mmh. Puis c'est vraiment important, je pense, d'encourager ce genre de jeu-là, parce que les grands studios font plus ça aujourd'hui. Tu vois, les grands studios faisaient des jeux expérimentaux il y a genre 20, 30 ans. Aujourd'hui, les grands studios, ils font la recette qui fonctionne déjà. C'est les studios indie, d'habitude, qui font des trucs vraiment spéciaux comme ça. Mmh.
Mais en même temps, c'est aussi le fait qu'ils soient aidés qui force à ça, parce que comment est-ce que tu veux te démarquer si tu peux pas aller chercher une meilleure qualité graphique que les jeux AAA, si tu peux pas aller chercher une meilleure qualité de gameplay, ben, tu dois innover, tu dois réfléchir. Puis c'est justement pour ça que très souvent, on essaie de mettre de l'avant les jeux indés, puis qu'on trouve, en parenthèse, que les jeux indés sont plus intéressants, mais c'est parce qu'à quelque part, on n'a pas le choix. Parce que est-ce qu'on jouerait vraiment à Undertale si la qualité d'écriture était médiocre? Est-ce qu'on jouerait vraiment à Stanley Parable si le narrateur n'était pas intéressant? Mm-hmm. Bah non, parce que je peux aller chercher une expérience graphique, une expérience de gameplay qui est nettement supérieure en jouant à un Call of Duty, un Elden Ring, etc. Là où ce que, bah, si je pense à des jeux du style Yes, Your Highness, qui est un jeu à choix où ce que tu joues un roi d'un royaume, forcément, qui doit prendre des grandes décisions, qui marie sa fille à un homme qui est un petit peu un despote, il est pas tout à fait sain d'esprit, sauf que c'est le fils d'un de tes bons amis, puis ben, c'est un mariage arrangé parce que ben, la royauté, ben, ça c'est l'histoire qui fait que c'est intéressant, sauf qu'encore une fois, ben, c'est le problème avec les jeux indés, la rejouabilité est très limitée. C'est rare d'avoir un jeu indé que tu pourras faire 5, 6, 7, 8.
À part des
6, rogues, 7,
à part des jeux pour lesquels le genre est fait pour
c'est
être
ça,
joué.
Les roguelikes style Dead Cells ou à la limite un Undertale où ce que ta deuxième expérience est très, 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 très différente de ta première. Et ce, même si tu veux refaire la même chose. Hein, on pense à la run génocide où ce que lorsque tu vas la terminer, bah, ton gameplay change quand même globalement. Mais c'est des choses qui sont plus rares. Fait que le jeu vaut la peine. Est-ce que faut l'acheter nécessairement? Pas obligatoire, surtout que, comme je l'ai mentionné, si vous l'achetez, je pense que c'est plus dans le but d'encourager le développeur, parce que de l'écouter avec quelqu'un d'autre, ça augmente la qualité.
Je pourrais peut-être faire juste une petite parenthèse rapide. Ça m'a fait penser vraiment à un jeu que tu m'as décrit là, avant qu'on commence le quiz. Ouais. Il y a un jeu qui est sorti il y a longtemps, peut-être 10 ans, ça s'appelle Jazz Punk.
Okay.
Ça ne me donne pas si peur que personne dans l'audience n'ait jamais entendu parler de ce jeu-là, Jazz Punk.
À ne pas confondre avec Cyberpunk.
Ouais, non, pas Cyberpunk, Jazz Punk. Et c'est vraiment un jeu hilarant, c'est un jeu avec un paquet de blagues. À un moment donné, tu es téléporté dans des situations virtuelles où tu joues à un jeu qui s'appelle Wedding Cake, qui est une espèce de blague de Quake. Non, c'est vraiment un jeu hilarant pour les gens qui s'intéressent. Si les jeux de blagues, des références à des films, à des époques, ça vous intéresse, Jazz Punk, et d'écouter genre 2 piastres à rabais.
J'aimerais que tu me dises comment tu fais pour tout le temps mentionner des jeux qui sont en rabais, Jérémy. Ça, sûrement.
Qui est en rabais?
C'est arrangé, là.
Je t'arrange avec le gars des villes. Mon papa, c'est. Comment il s'appelle, le gars qui
dirige Gibbon. Valve?
C'est exactement ça. Ouais.
Parce qu'il n'est pas en rabais tout seul, mais il est en rabais si tu le prends dans un bundle avec d'autres jeux du style de Defcon, Xenonauts, puis First Strike. Mais, Puis le jeu est, du 5 sur 10, 5 sur 5, excusez-moi, 9 sur 10, 9 sur 10.
Ah, c'est un excellent jeu, vraiment, Jazz. Personne n'a entendu parler de ce jeu-là, mais c'est sorti il y a genre 10 ans, c'est hilarant.
OK. Fait que ça, c'est ma compétition pour le quiz, cette personne-là.
Mais là, c'est fait que j'espère que tu vas gagner. Mais je pense, en tout cas, ayant vu le quiz, peut-être, on va voir, là, mais je pense que Jérémy Thibault, tu vas avoir un petit edge, là. Te connaissant, là. Il y a beaucoup de questions, t'as déjà les réponses.
C'est possible. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais être franc jeu, je vais fermer l'ordinateur que j'ai à côté de moi qui me permet d'être un meilleur animateur. Et ça va être du 1 contre 1, okay. plus vous qui nous écoutez actuellement.
Exactement. En fait, dans le fond, le quiz, ça va être simple, comment on va fonctionner. Je vais poser la question, puis chacun à votre tour, puis j'ai des choix de réponses aussi. Donc chacun à votre tour, vous allez choisir votre réponse, vous allez la dire, puis ensuite je vais dire la réponse.
Est-ce que tu veux qu'on l'argumente aussi?
Je pense pas qu'il y aura besoin d'argumenter dans ce cas-ci. Peut-être quelquefois on va faire sur certaines questions, on va
pouvoir, tour de table, des
parler
anecdotes,
un peu plus, mais on était un peu serré dans le temps, fait que go. Ok, parfait. D'ailleurs, le quiz ici, ce quiz-ci n'est pas de ma part. Les prochains, j'espère, je vais essayer de les faire par moi-même. Ce quiz-ci, je l'ai trouvé sur Internet, sur le site français Quizity. Quizity, c'est un site justement qui fait de la culture geek. On va y aller avec la première question. La première question, c'est le plombier moustachu le plus connu du monde s'appelle Mario. Quel est son nom d'origine? Jumpman, Speedman, Strongman.
Jumpman.
Ouais, Jumpman.
Jumpman.
Parfait, bon, c'était trop facile.
C'est les choix de réponse qu'on
fait. C'est tellement iconique.
Ah, ok, parfait.
Si les choix de réponse ont l'air trop simples, donne-nous les pas tout de suite parce que.
Ça
moi, sur le coup, moi et Jérémy, on n'était pas certains.
Exactement.
J'ai vu son visage.
Non, je le sais, c'est ça, mais c'est pour ça, des fois, ça aide, justement. Parce
vraiment,
que
ouais.
Moi, si tu m'aurais pas dit Jumpman, j'aurais jamais
fait.
Moi
non plus, je pense pas.
Parfait. Dans The Walking Dead, on ne parle jamais de zombies, on parle de quoi plus à la place?
Ah ouais, c'est quelque chose que j'ai mentionné il y a de cela quelques semaines d'ailleurs.
Ah ouais, non, mais
je vais te laisser.
Non, pour moi, j'ai jamais écouté Walking Dead.
Exactement, c'est pour ça que je disais.
mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, moi, il y a quelques semaines, j'ai eu un chroniqueur qui est venu me parler de Walking Dead spécifiquement.
D'accord. Wow.
Si tu veux, je te laisse une opportunité.
Ah ben, peut-être des revenants, quelque chose comme ça, un truc comme ça.
En fait, c'est un univers qui ne parle pas de zombies, c'est un univers qui parle de la condition humaine dans un monde de zombies. C'est-à-dire que c'est pas le zombie qui est au cœur de l'histoire, c'est un texte pour pas être la condition.
Ah, l'être humain, ok, je comprends ce que tu veux dire.
Okay. Mais c'est pas ça exactement, là. On parle de rampant, rôdeur ou romantique.
Des rôdeurs, j'aurais tendance à croire.
C'est les rampants?
Putain, tu sais pas quoi?
Moi, j'ai dit rondeur. Putain. Rôdeur.
Rampant? Je vais rester sur ma réponse, mais j'ai l'impression que c'est rondeur.
C'est moi qui ai gagné! Excellent, mec. Mais oui, on parle de rôdeur.
Moi,
monsieur.
J'ai jamais écouté ça.
Je tiens à mentionner que la question n'était pas précise.
C'est vrai qu'elle n'est pas précise, mais comme c'est pas moi qui l'a faite.
La réponse juste avant que j'ai mentionné reste valide.
Ouais, elle était philosophique, elle était cherchée, elle était intelligente. Moi, j'ai juste pris au hasard rôdeur, puis c'est vrai que j'ai la bonne réponse.
Ben, c'est ça, j'ai failli lui donner le point parce que c'était bon, là. C'était meilleur que leur truc. Question 3. Celle-là, elle va être un peu plus spéciale. Quel est le jeu le plus vendu au monde? Puis je vais te donner les choix de réponse déjà. Minecraft, GTA V ou bien Tetris?
Ouh.
Je suis à peu près certain de connaître la réponse, fait que je vais te laisser commencer, Jérémy.
Ça.
Le truc, c'est que peut-être que ça l'a changé depuis le temps.
Moi, j'aurais tendance à croire que ça doit être Minecraft. Genre, je vais parier sur Minecraft.
C'est Tetris.
GTA, ça a l'air évident, mais je veux dire Minecraft.
C'est Tetris.
Exactement, c'est Tetris.
Ah ouais, depuis le temps.
Ben, c'est partout, hein.
Mais Tetris, c'est de la triche, c'est là depuis extrêmement longtemps.
Ça fait genre au moins 50 ans que ça existe.
Le truc, c'est que Tetris aussi, pour le développement de l'enfant, c'est un jeu qui peut être utilisé parce que c'est le même principe que d'avoir les. Tu sais, quand le jeu où tu as des carrés, des triangles, puis tu dois les mettre dans les bons trous, Tetris vient faire quelque chose de similaire.
Ah, c'est un jeu légendaire. En fait, moi, Tetris, ça me fait penser à lorsque... Parce que là, moi, je déménage quasiment à chaque année. Fait que, alors, si je dois déménager, puis je dois mettre tout plein de trucs là, dans la voiture, là, c'est toujours un casse-tête.
Puis aussi, on peut penser aux remakes qui ont été faits de Tetris, hein, les Tetris Ultimate, tout ce que c'est des jeux compétitifs. Il existe même une version Battle Royale de Tetris.
Hein?
Ouais, c'est...
Okay,
c'est spécial,
ça.
Mais dans le fond, lorsque tu le fais suffisamment vite, tu peux aller chercher des power-up qui vont venir rendre la vie plus difficile aux autres joueurs.
Okay.
Fait que spécial. Wow. Mais le compétitif de Tetris est très.
Je savais qu'il y avait encore des championnats du monde de Tetris, mais moi dans ma tête, j'ai le Tetris encore des années 80. Là,
Bien
basique.
Puis on peut aussi penser à Dr. Mario qui, ultimement, est un Tetris.
Mm-hmm. Ben oui, ça joue beaucoup. Là. Donc, une autre question. Ça, c'est comme une petite phrase à compléter. C'est une petite boule jaune. Il adore
Pac-Man.
Les fantômes.
Je suis désolé.
Boule jaune n'est pas sûr, mais dès que tu dis fantôme, c'est sûr que c'est Pac-Man. C'est sûr.
Exactement, c'est Pac-Man. Je vous donne le point, mais là-dessus, je voulais le donner à Jérémy Thibault parce qu'il a répondu avant. Là.
Okay. c'est correct, je peux partager.
Parfait. Mais je donne le point à tout le monde. Dans GTA V, les trois protagonistes sont Michael.
Pas besoin de.
Non, c'est pas les choix de réponse.
Ah, c'est pas les choix de réponse, ok.
Je donne 2 protagonistes sur 3.
Ok.
Ok, Michael, Trevor et...
J'ai jamais joué à GTA, je sais, je suis un nerd, j'ai jamais joué à GTA 5.
Franklin.
Je connais pas. Franklin, ben oui.
Exactement, Franklin.
Ouais, j'ai jamais joué à ce jeu-là, fait que je pourrais pas te le dire.
Parce que Franklin, en fait, c'est au niveau de GTA 5, c'est le personnage auquel tu peux t'identifier parce que c'est lui qui commence au niveau de la rue. Puis Michael et Trevor sont comme ses deux mentors. Puis lorsque tu arrives à la fin du jeu, bon, mini divulgation, mais en même temps, le jeu est sorti, j'étais en secondaire 5. Hein,
ouais, ça fait un petit bout
de temps. J'ai pas joué, c'est trop tard, là.
Ça fait un certain temps, le GTA 6 va bientôt sortir. Lorsque tu arrives à la fin, en fait, t'as un choix qui est de est-ce que tu trouves que Michael est allé trop loin parce que c'est, tu sais, c'est un arnaqueur, lui. C'est quelqu'un qui montre qu'il a une belle vie, mais qui en réalité, sa vie, ça va pas bien, sa femme le trompe, ses enfants l'aiment pas particulièrement. C'est des stéréotypes, là, vraiment. Son gars, c'est le stéréotype du troll qui joue à Call of Duty, qui reste dans son salon à manger des chips, alors que sa fille, c'est le stéréotype de la bimbo qui va à des parties et fait toutes sortes de choses pas particulièrement intéressantes. Là, au Trevor, c'est juste pleinement un sociopathe. Trevor, littéralement, il y a une scène où il y a 2 personnes qui s'engueulent devant lui. La scène d'après, on le voit jeter les ordures à la poubelle, puis on voit une jambe qui dépasse. Donc, c'est comme lui qui est censé être notre identification morale.
Mm-hmm. OK.
Prochaine question, juste pour rappeler le score pour le moment.
C'est 4-3, si je me trompe.
4-3, ouais. 3 pour Jérémy Germain et 4 pour Jérémy Thibault.
Je trouve ça plus drôle si tu dis pas nos noms de famille.
C'est ça, exact.
Il nous reste encore 2 minutes.
Prochaine question, quelle licence célèbre a sorti en 2016 un opus sur la Première Guerre mondiale?
C'est Battlefield.
Ouais, c'est Battlefield. D'ailleurs, ça a été beaucoup décrié, cet opus-là.
Ouais. Oui, un peu, oui. Donc, chaque opus de jeu de la série se fait décrire ces temps-ci.
Donc, on va faire un jeu qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais vous jouez une femme avec un bras bionique. Moi, c'est plus le bout avec le bras bionique que j'ai de la difficulté. Je veux dire, même si pendant la Première Guerre mondiale, s'il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes qui se sont battues, il y a des rapports historiques de femmes qui auraient participé.
Là, on va y aller un peu plus geek. On va quitter un peu le monde des jeux vidéo. On va poser des questions là. Qu'est-ce qu'une barrette? Ah, mais là, vous le savez, c'est vrai. Mais bon, on va quand même la poser quand même. Qu'est-ce qu'une barrette de RAM dans un ordinateur?
Quelque chose qui me permet de jouer à Elden Ring.
La mémoire vive.
Ouais, c'est de la mémoire vive. C'est ce qui permet à ton ordinateur de faire rouler avec plus d'images.
Exactement. C'est ce qui permet d'avoir plus de fluidité. Bon, c'était la seule question technique là.
Pour ceux que ça intéresse, il y a de cela quelques mois, j'ai parlé de mes anecdotes de vie avec Elden Ring et je mentionne notamment la barre de RAM.
Là, on va y aller. Une autre question vraiment facile, OK? Juste parce que c'est méta avec le nom de l'émission. Quel est le synonyme de geek?
Jérémy, je te... Ouais, parfait.
Je l'ai pas raté, celle-là.
Parfait. Une petite dernière pour la route avant de se laisser.
Parfait. Pop. OK. Qu'est-ce que le CTRL-Z permet de faire?
Qu'est-ce que CTRL-Z permet de faire, Jérémy?
C'est delete, peut-être? Je sais pas. CTRL-Z? Delete?
Tu le sais-tu, toi, Jérémy?
Ouais, donc ce que le CTRL-Z nous permet de faire, c'est de revenir en arrière si on a fait une erreur. Okay, si, par exemple, on a supprimé quelque chose, on peut le faire revenir.
Et c'est la victoire de Jérémy Thibault!
Donc, c'était très plaisant. Merci pour ce quiz, Nassim. La prochaine fois, on va essayer de piper les dés en faveur de nos chroniqueurs parce que moi, c'est un petit peu une injustice. Je suis là toutes les semaines.
C'est pas que je lui ai donné les questions avant pour qu'il puisse revenir. C'est pour ça.
C'est ça, il m'a acheté. Non, pas du tout. Et de notre côté, on se revoit la semaine prochaine, dimanche midi, pour revenir sur une autre émission de Des Kiwis et des Nerds où cette fois-ci, il se peut que nous parlions d'un certain film en lien avec Harry Potter. Mais ce sera à voir la semaine prochaine à l'émission des Kiwis et des Nerds. Et sur ce, je vous souhaite à tous une magnifique semaine.
Merci, salut.
C'est que sur un papier. Fais sur les tapas, tombe sur ses deux pieds. Fais du moonwalk dans chambre à coucher. C'est que sur un peu